Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. L'attentat d'Ankara du 10 octobre dernier, le plus meurtrier de l'histoire de la Turquie, plus de 100 morts, a mis en évidence que le pays s'enfonçait inexorablement dans la violence et l'instabilité. La Turquie est en guerre contre Daesh, un peu, mais surtout contre les Kurdes, ceux de Turquie, proches du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, mais aussi ceux de Syrie. Le pays accueille plus de 2 millions de réfugiés à sa frontière syrienne, un facteur supplémentaire de déstabilisation. La croissance marque le pas, les médias sont persécutés. Dernier épisode en date, la prise d'assaut en direct de 2 télévisions proches de l'opposition. À Ankara, l'autoritarisme du président Recep Tayyip Erdogan atteint des sommets. Alors, à la veille des élections anticipées de ce dimanche, la Turquie est-elle en train de redevenir l'homme malade de l'Europe? Je vous présente les invités qui ont rejoint les micros de Carrefour de l'Europe. Bonjour Didier Billon.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS, et l'IRIS c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nélifer Gueulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, et l'EHESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. Ahmet İnsel, bonjour, merhaba.
Bonjour, merhaba.
Vous êtes professeur, éditorialiste, animateur des éditions Il était Sim. Merci d'être en ligne d'Istanbul. Votre dernier livre, La Nouvelle Turquie d'Erdogan, a été publié aux éditions La Découverte. On va revenir sur la personnalité de Recep Tayyip Erdogan. C'est toute l'histoire de votre livre, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Alors Didier Billon, afin de nous remettre dans le contexte, pourquoi les Turcs ont-ils été convoqués aujourd'hui à ces élections anticipées? Ils avaient pourtant déjà voté le 7 juin dernier.
Oui, il faut mettre en perspective, effectivement, le projet fondamental de M. Erdogan, c'est de tenter de présidentialiser le régime. Pour ce faire, il a besoin de modifier la Constitution, et pour modifier la Constitution, il fallait une majorité qualifiée. Cette majorité qualifiée, les élections législatives du 7 juin dernier ne lui ont pas permis de l'obtenir. À partir de là, au cours du mois de juin, début juillet, des négociations pour la constitution d'un gouvernement de coalition se sont déroulées. On peut supposer que M. Erdogan, dès le 8 juin, était opposé en réalité à la perspective d'un gouvernement de coalition. Et puis sont arrivés les attentats de la fin du mois de juillet dans la ville de Suruç, qui a fait 32 morts. Et à partir de là, il y a une sorte de fuite en avant de la part de M. Erdogan, qui, profitant, si j'ose dire, de cet attentat, a déclaré la guerre au terrorisme, il ne cesse de le répéter, mettant dans le même sac Daesh, l'État islamique et le Parti des travailleurs du Kurdistan. Mais en réalité, on voit bien que son projet, c'est de détruire le PKK, que la majorité des opérations militaires actuelles se font contre le PKK et non pas contre l'État islamique. En tout cas, déclarant l'impossibilité de former un gouvernement de coalition, il a décidé de recourir à des élections législatives anticipées et qui ont pour but de capter une partie de l'électorat nationaliste qui lui a manqué le 7 juin pour, le pense-t-il et le souhaite-t-il, acquérir une majorité nécessaire pour modifier la Constitution. Et il n'hésite pas pour cela à opter pour une stratégie de la tension extrêmement préoccupante, n'hésitant pas à activer la polarisation politique qui existe dans ce pays, à utiliser des moyens les plus violents contre une partie de la population dans un but électoraliste visant à la modification de la Constitution. Donc ce choix est infiniment grave, je trouve, pour un président de la République, que ne doit pas hésiter à mettre son pays à feu et à sang pour des buts électoralistes. D'autant que, et j'arrêterai là, les sondages d'opinion ne donnent pas une modification des rapports de force par rapport aux résultats des élections du 7 juin dernier.
Alors on va revenir justement un instant sur ces élections du 7 juin dernier, marquées par le succès du parti pro-kurde modéré de centre-gauche qui s'appelle le HDP. Il avait obtenu le 7 juin 80 sièges sur 550 en mordant au-delà de l'électorat kurde traditionnel. Petit raccourci sonneur de l'évolution de ces dernières semaines en Turquie avec Maria Fonso. Au soir du 7 juin, Selahattin Demirtas, le leader du HDP, ce parti pro-kurde modéré, laisse éclater sa joie.
À partir de ce soir, il n'y a plus de débat sur le régime présidentiel. Il n'est plus question de dictature. Ce n'est pas le fait d'une entité supérieure. Ce n'est pas un complot. Et ce n'est pas un complot international non plus. C'est le choix et le droit du peuple qui s'est exercé en son âme et conscience. Et à partir de ce soir, le HDP ne sera plus jamais tenu à l'écart d'aucun projet ou d'aucun programme concernant la Turquie et tous ses peuples. Nous avons fait une promesse au peuple de Turquie. Nous ne ferons pas de coalition avec l'AKP, c'est très clair. Mais tout ce qui concerne les autres possibilités, ce sont les députés qui en prendront la décision.
Le président Erdogan n'a pas admis le succès électoral du parti pro-kurde de modérer le HDP et la Turquie a vu renaître son problème kurde. Depuis quelques mois, les affrontements entre l'armée turque et les hommes du PKK, le parti radical kurde, ont repris. Bombardement des bases du PKK au nord de l'Irak, reprise des affrontements dans l'est du pays entre les forces de sécurité turques et les militants du PKK. Depuis fin juillet, la Turquie a déclaré, je cite, « la guerre contre le terrorisme qui vise le groupe djihadiste et État islamique, mais surtout les rebelles du PKK. Selon le Premier ministre Ahmet Davutoglu, il est temps, je cite, de nettoyer le pays des terroristes du PKK.
Mes amis, ces montagnes qui abritent les bases du PKK vont être nettoyées. Elles seront nettoyées, peu importe ce que cela implique. Un point, c'est tout. Les montagnes, les plaines, les villes de ce pays ne seront pas laissées aux terroristes.
Les faire gueuler au soir du 7 juin, le président Erdogan a été surpris par le succès du HDP, ce parti pro-kurde modéré. Et très rapidement, c'était son cauchemar, non?
Oui, d'abord, revenir à l'euphorie, parce qu'on était tous les démocrates de la Turquie, a eu un moment d'euphorie après le 7 juin, parce que les élections ont bien montré que le projet présidentiel et le tournant autoritaire a été bien arrêté par cette configuration politique. Et on voyait quand même Selahattin Demirtas comme un leader qui s'impose. Il devient justement le rival de Erdogan parce qu'il a capté un peu l'imaginaire aussi démocratique de la Turquie entière.
C'était la première fois qu'un parti kurde obtenait plus de 10%, il a obtenu 13% si je me souviens bien.
Exactement.
Et donc ça lui permettait d'entrer au Parlement.
Au Parlement. Donc c'était déjà une victoire très importante pour la démocratie turque également parce que les Kurdes trouvaient une voie de représentativité dans le Parlement. Et puis surtout, je pense que la politique de Selahattin Demirtas et le personnage est très important parce qu'il s'est déjà imposé dans les élections municipales et puis surtout les élections présidentielles. Il était le premier candidat qui s'est déclaré comme kurde aux élections donc présidentielles, au suffrage universel. Donc, il s'est déjà montré comme le leader du mouvement du parti HDP. Et il a eu aussi ensuite donc la confiance pour se présenter aux élections comme un parti. Et il en sort tout à fait vainqueur de ces élections. Donc, le 8 juin, on était tous, on a respiré, on a dit, c'est fini le tournant autoritaire avec des projets mégalomaniaques aussi du développement, avait pris une sorte de halte. Eh bien, la coalition n'a pas eu lieu. Et justement, là, on se trouve devant une série d'attentats qui a traumatisé la société civile, qui avait déjà commencé à Diyarbakır juste avant les élections, ensuite Suruç, et ensuite Ankara. Donc, on pense qu'on a un problème d'alternance par rapport à Erdogan. La question, c'est aujourd'hui, les élections du 1er novembre, on entre dans des conditions beaucoup plus difficiles que mois de juin. Aujourd'hui, la question de l'alternance pose d'une manière, est-ce qu'on peut rester dans le système démocratique où les mesures de plus en plus anticonstitutionnelles, les mesures, disons, qui sont prises pour réprimer la liberté des presses, mais aussi les hommes d'affaires, les réquisitionner les propriétés privées et tout ça, commencent à nous montrer qu'il y a une politique d'intimidation, de la volonté du contrôle même des manifestants, qui signale un peu le déraillement du système politique légal. Donc je pense que ces élections jouent un rôle très important. Absolument, il faut une coalition. C'est la seule possibilité de l'alternance, c'est la coalition, un gouvernement de coalition.
Ahmet İnsel, on est frappé de voir à quelle vitesse la situation s'est dégradée en Turquie à partir du 7 juin. Comme expliqué à l'instant Nilüfer Gölen, il y a eu un moment d'euphorie, de joie, et qu'il y avait une opportunité d'une alternance possible, en tout cas d'une évolution de la Turquie, avec l'émergence de ce leader, Selahattin Demirtas. Alors, c'est un kurde, et les Turcs ont voté pour lui, il est jeune, et pendant très longtemps, Recep Tayyip Erdogan n'avait pas d'opposant. Et puis soudain, cette dégradation très rapide, à tel point qu'aujourd'hui, la Turquie est quand même presque au bord du chaos.
au bord du chaos. Et justement, j'allais dire ce mot parce que quelques jours après les élections du 7 juin, Tayyip Erdogan a dit approximativement « Je vous avais demandé de nous donner 400 députés, avoir une majorité gouvernementale, ou sinon le pays serait dans le chaos, nous risquons d'aller dans le chaos ». Il avait déjà menacé, quelques jours après les élections, le pays du chaos, parce que Tayyip Erdogan, en fait, pousse la Turquie dans un dilemme. Moi, avec les pleins pouvoirs, de fait ou de droit, ou le chaos, et effectivement la stratégie du chaos, à jouer, nous ne savons pas s'il va gagner des points dans ses stratégies. Les sondages d'opinion montrent malheureusement qu'il n'y a pas un effritement significatif de AKP. Au contraire, même on s'attend qu'ils obtiennent un ou deux points de plus par rapport aux élections de 7 juin aujourd'hui. Donc la stratégie du chaos est une stratégie de polarisation, de transformation des partis rivaux en ennemis, et plus particulièrement le Parti démocratique des peuples est devenu l'ennemi ouvert, déclaré, nommé par les dirigeants d'AKP et plus personnellement Tayyip Erdogan et Davutoğlu, parce que c'est la réussite électorale de ce parti qui a privé aujourd'hui le parti AKP de la majorité simple au Parlement. Donc du coup, une stratégie de criminalisation de HDP en déclarant HDP comme émanation de l'organisation terroriste PKK. C'est le discours officiel tenu par Davutoğlu et Erdogan. Premier ministre et le président de la République tient un discours pour un parti qui a eu 13% des voix, qui dispose 80 députés sur 550 au Parlement. Il le désigne officiellement comme organisation émanant de l'organisation terroriste PKK. Et en même temps, décrédibilisation et criminalisation. Nous espérons que dans les résultats d'aujourd'hui des élections, le parti HDP, le parti de Selahattin Demirtas, ne perd pas ses voix de 7 juin et montre que dans la société turque, il y a une volonté de démocratisation, de paix, qui n'est pas du tout désormais manipulable, influençable par cette stratégie de chaos et cette stratégie de polarisation qui, il faut avouer, jusqu'à il y a récemment, a permis à Tayyip Erdogan de gagner des élections.
Alors Didier Bidon, on a l'impression, et c'est une constante de l'histoire de la Turquie, que quand ça va pas sur le plan intérieur, on peut toujours sortir la carte des Kurdes. C'est un ennemi intérieur facile à diaboliser.
Oui, ça c'est le problème, le défi principal de la société turque, je pense. Et c'est un problème qui perdure depuis les débuts de la République de Turquie en réalité.
Et il faut peut-être situer un peu ce que représentent les Kurdes au sein de la population turque.
Environ 15 millions d'individus probablement, bien qu'il n'y ait pas de recensement de type ethnique. Alors évidemment, c'est un chiffre approximatif.
Plus ou moins 15% de la population,
oui, à peu près. À peu près, oui. Ce débat sur la question kurde, il est compliqué bien sûr, puisque c'est un défi central, en tout cas de mon point de vue. Mais en plus, il a été, comment dirais-je, perverti par la lutte armée. Parce que le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui comme cela vient d'être rappelé, est qualifié d'organisation terroriste, à la fois bien sûr par les autorités politiques turques, mais aussi pour mémoire par l'Union européenne et par les États-Unis, est un parti qui a initié une lutte armée depuis 1984. Donc évidemment, il y a une sorte de volonté de la part des autorités turques, depuis maintenant plus de 30 ans, que de criminaliser cette organisation et de mener un combat militaire. Or, ce type d'organisation ne peut pas être éradiqué militairement. C'est impossible. En tout cas, ce qui est clair, c'est que seule une solution politique peut permettre de trouver une forme de compromis. Alors, est-ce des formes de décentralisation de la Turquie ? Je ne sais. Ça, c'est aux Turcs eux-mêmes de décider. Mais une chose est certaine, ce n'est pas la répression, ce ne sont pas les bombardements qui permettront d'éradiquer ce mouvement. D'autant que, au cours des années, eh bien, ce mouvement s'est constitué une base sociale. Je ne parle pas des combattants qui sont dans les montagnes, je parle dans les villes, notamment de l'Est et du Sud-Est, ou dans les quartiers kurdes des grandes villes comme Istanbul ou Ankara. Et ce PKK, même si on le qualifie de terroriste, eh bien, il y a un fait, c'est qu'il a une base. Et on est tout à fait étonné, éventuellement, lorsque l'on voit des reportages, des vidéos de manifestations dans les villes de l'Est et du Sud-Est, bah, ces manifestants agitent le drapeau kurde, mais aussi le drapeau à l'effigie du leader charismatique du PKK, Abdullah Öcalan, qui est en prison depuis 1999. Ce sont des faits. Donc il est nécessaire de poser le problème de façon politique. Et il faut reconnaître que M. Erdogan avait eu une certaine forme de courage depuis la fin 2012 en initiant un processus dit de résolution, donc un processus de négociation avec le PKK. Malheureusement, celui-ci a eu quelques difficultés à prendre un rythme efficace, efficient, et puis évidemment, depuis les tristes événements de la fin du mois de juillet, depuis la reprise des bombardements contre les bases du PKK en Turquie et dans le nord de l'Irak, eh bien ce processus n'existe plus. Mais il faudra, dans les meilleurs délais, et c'est d'ailleurs ce que réclame Demirtas, reprendre le chemin de la négociation. Il n'y aura pas de solution militaire, j'y insiste beaucoup.
Alors, l'émergence du HDP, c'est-à-dire ce parti procure modéré, par opposition au PKK, qui est un parti, on va dire, radical, hein, je pense que, et en tout cas...
C'est pas seulement la différence, le PKK a choisi la lutte armée. Le HDP est un parti légal, bien sûr, mais c'est un parti parlementaire. Et donc, ce qu'expliquait Ahmed à l'instant, cette volonté de criminaliser le HDP est évidemment totalement contre-productif et très dangereux pour l'état de droit dans ce pays.
Le HDP, c'est le cauchemar d'Erdogan.
C'est le cauchemar de Erdogan pour des raisons pas simplement à cause de la représentativité des Kurdes aujourd'hui dans le Parlement et qu'il le pèse dans les élections, mais surtout, il représente déjà une politique différente. Et même par rapport à la question du mouvement kurde, beaucoup plus, disons, politiquement nationaliste, aujourd'hui, Demirtas a eu la capacité de renouveler aussi cette politique kurde en Turquie. C'est pour cela qu'on dit pro-kurde et pas simplement un mouvement, un parti kurdiste ou des Kurdes, parce qu'il s'adresse à l'ensemble de la société turque. Et il a réussi à vraiment porter sa parole sur l'ensemble de la société turque. On dit, et c'est pas du tout une idée fausse, il s'inscrit un peu comme Syriza en Grèce et Podemos en Espagne. Toute, bien évidemment, comparaison n'est pas une comparaison parfaite, mais pour dire qu'il représente aujourd'hui les nouvelles dynamiques qui existent dans la société turque depuis le mouvement Gezi. C'est qu'il a pris ce style de Gezi qui s'adresse...
Dans le mouvement Gezi, il faut rappeler les grandes manifestations de 2013 sur la place Gezi au centre d'Istanbul.
Exactement. C'est un mouvement, c'est un tournant pour le mouvement AKP. La réaction par rapport à cette citoyenneté sur la place publique qui, au fond, qui n'était pas un mouvement c'était un mouvement plutôt pacifiste, mais qui, effectivement, montrait idéologiquement les limites de AKP. Donc là, on a vu vraiment une Turquie de post-AKP qui émerge. Et d'ailleurs, les réactions complètement démesurées par rapport à ce mouvement montrent l'importance de ce mouvement. Peut-être ils n'ont pas pesé eux-mêmes politiquement, mais ils ont changé le paradigme politique. Et c'est Demirtas qui a su traduire les nouvelles aspirations de cette Turquie, qui
moderne,
réclame une citoyenneté pluraliste, qui va au-delà de la polarisation religieuse, séculière, kurde, turque. Vraiment, la célébration du pluralisme dans la citoyenneté. Et lui, il a pris, justement, dans son agenda, parce qu'il a commencé à parler des citoyens, des femmes, des Kurdes, mais aussi des minorités sexuelles, la jeunesse, pour une constitution civile et démocratique, beaucoup plus pour une société inclusive. Même son style, avec une solide humour. Donc ça, je trouve aussi très important, parce que quand on parle de ces deux Turquies aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan aujourd'hui, c'est sans joie, c'est plutôt la peur, l'intimidation, question sécuritaire, la stabilité. On n'est plus dans la stabilité, on est dans des problèmes de sécurité, on n'est plus dans l'euphorie de développement. On est aujourd'hui coincé. Donc, tandis que Demirtas porte cette voix d'optimisme, de l'humour, de non-agressivité, un discours non-polarisé, et je pense que c'est ça aujourd'hui, la possibilité d'une autre Turquie qui n'est plus dans les mains de AKP. La question, c'est la Turquie de post-AKP, est-ce qu'elle peut émerger de ces élections?
Et qu'on va voir ça dans la deuxième partie, car on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps d'un point sur l'actualité, avant de retrouver nos invités. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie, l'attentat d'Ankara du 10 octobre dernier, le plus meurtrier de l'histoire de la Turquie, plus de 100 morts, a mis en évidence que le pays s'enfonçait inexorablement dans la violence et l'instabilité. La Turquie est en guerre contre Daesh un peu, mais surtout contre les Kurdes, ceux de Turquie proches du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, mais aussi ceux de Syrie. Le pays accueille plus de 2 millions de réfugiés à sa frontière syrienne, un facteur supplémentaire de déstabilisation. La croissance marque le pas, les médias sont persécutés. À Ankara, l'autoritarisme du président Recep Tayyip Erdogan atteint des sommets. Alors, à l'occasion de ces élections anticipées de ce dimanche, la Turquie est-elle en train de redevenir l'homme malade de l'Europe? Je vous représente rapidement nos invités. Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nilufer Gueulet, directrice d'études à l'EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ahmet İnsel, professeur éditorialiste, animateur des éditions Ilit Esim, il est en ligne d'Istanbul. Son dernier livre paru aux éditions La Découverte, la nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Alors avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Angela Merkel s'est rendue à Istanbul il y a une quinzaine de jours. Elle a rencontré Recep Tayyip Erdogan. La chancelière et le président ont parlé des réfugiés syriens. Ils sont plus de 2 millions en Turquie. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
Cette visite n'a pas échappé à Courrier International qui l'a traité entre autres, via un article du quotidien libanais, L'Orient le Jour. Et pour le journal de Beyrouth, cette rencontre a pris la tournure d'une discussion de marchands de tapis.
Oui, exactement. Alors, L'Orient le Jour, c'est le point de vue arabe est intéressant. Il voit dans le président Erdogan, en fait, le sous-traitant d'Angela Merkel dans la crise des réfugiés. Et en effet, quand Angela Merkel, le 18 octobre, s'est rendue à Istanbul, en fait, rencontrer le Premier ministre et le Président, elle a cherché une issue à ce qu'on appelle désormais la crise des réfugiés, sachant que tous les réfugiés, notamment de Syrie, mais pas seulement, qui arrivent en Allemagne, transitent par la Turquie. Donc il fallait, de son point de vue, il fallait essayer de faire en sorte que la majorité puisse rester sur le territoire turc, mais naturellement apporter une aide à la Turquie pour s'occuper de ces réfugiés.
D'où l'idée d'amadouer un peu le président turc.
Oui, dans un deal d'ailleurs où chacun essaye de placer quand même ses intérêts. D'un côté, Merkel propose de l'argent, mais pour que les réfugiés puissent être mieux traités et ne coûtent pas trop cher à l'État turc. Mais en échange, naturellement, la Turquie revient sur des enjeux européens qui lui tiennent à cœur, comme par exemple des facilités pour obtenir des visas pour ses propres ressortissants, de l'argent bien sûr, et une tentative de relancer les négociations pour une adhésion de la Turquie à l'Union européenne.
Et puis encore quelque chose qui est assez surprenant, mais qui en dit long sur la position de force de la Turquie, la participation d'Ankara au sommet européen.
Exactement. C'est-à-dire que Erdogan essaye, à la veille de ces élections et législatives anticipées, aussi de se donner une stature, de montrer qu'il a du poids, il pèse, et il essaye naturellement de renforcer son pouvoir qu'il considère insuffisant sur son propre territoire.
Ahmet İnsel, j'imagine que la visite d'Angela Merkel a été très exploitée sur le plan intérieur par Recep Tayyip Erdogan.
En partie, pas tant que ça finalement, parce qu'il faut dire que sur la question syrienne et des réfugiés n'est pas un sujet de débat politique électoral d'une manière inattendue. L'opposition ne remet pas en cause l'accueil des réfugiés, et donc du coup, Tayyip Erdogan n'arrive pas à créer une opposition entre nous, les généreux, nous accueillons les réfugiés, et eux, ils ne veulent pas, etc. Donc par rapport à ce qui était anticipé, il n'y a pas eu une exploitation massive de ce débat, d'autant plus que je crois qu'actuellement, le fait que le gouvernement interdise la publication de deux journaux hier, et arrête de deux émissions de télé, etc., font que l'actualité politique est tellement pris par ce débat que ce genre de questions ne figure pas dans le débat interne.
Quel est l'impact, David Insel, de ces 2 millions de réfugiés à la frontière syrienne? Alors, ça représente à peu près 3% de la population turque, hein, j'arrondis. Ça voudrait dire qu'en France, si on prend un point de comparaison, ce serait aux alentours d'1,5 million de réfugiés pour qu'on ait quand même un point de comparaison. Quel est l'impact dans l'évolution de la Turquie?
Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un vrai débat passionnel là-dessus. La grande majorité de la population ne remet pas en cause l'accueil des réfugiés. Il n'y a pas de réaction négative, sauf peut-être très marginalement. Le gouvernement essaye de trouver des solutions pour les accueillir d'une manière plus satisfaisante, mais il a un handicap, c'est que ces réfugiés n'ont pas, à cause du gouvernement, à cause de l'État turc qui a mis une limite aux accords de Genève de 1951, ces réfugiés n'ont pas le statut de réfugié international sous la protection du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés. Alors le gouvernement a inventé un statut de invité, résident, passager, etc., avec des droits. Du coup, c'est cette situation qui ne peut pas durer. Deuxième chose, c'est qu'une partie importante de ces réfugiés ne veulent pas rester en Turquie. Ils veulent aller en Allemagne, ils veulent aller en Suède. N'ayez pas peur, ils ne veulent pas tellement venir en France, je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent surtout aller en Allemagne, vers les pays scandinaves. Et quoi qu'on fasse, tout le monde sait que c'est très très difficile de les bloquer en Turquie. C'est un peu la volonté d'Angela Merkel de pouvoir participer au financement du maintien en Turquie de ce réfugié, mais je crois que c'est un espoir vain. À moyen terme, il va y avoir évidemment des réfugiés qui vont s'installer définitivement en Turquie. Je crois que quoi qu'il arrive en Syrie, le jour où il y aura le cessez-le-feu et un début de processus de paix, il va y avoir un peu de retour, mais il va y avoir aussi pas mal de réfugiés syriens qui vont définitivement rester en Turquie. Alors, par rapport aux pays européens où, avec 10 000 réfugiés, ça devient catastrophique, c'était un sujet très important des élections en Pologne, alors qu'ils n'ont quasiment pas de 1 000 réfugiés accueillis en Pologne. Je crois que la différence, c'est que les réfugiés syriens sont dans leur très grande majorité musulmans et ils sont accueillis dans un pays musulman, alors qu'en Europe, le débat sur les réfugiés, c'est aussi le débat sur les réfugiés musulmans particulièrement.
Alors, Médicelle, on va laisser de côté un instant le problème des réfugiés et des réfugiés musulmans. Didier Billion, en ce qui concerne la Syrie, le moins qu'on puisse dire, c'est que la Turquie joue un jeu pour le moins trouble.
Non.
Non. Non, je vous écoute.
Non, je pense que la politique des autorités politiques turques, je fais bien la différence, elle n'est pas ambiguë. On sait, pour aller vite, que depuis l'été 2011, c'est-à-dire quelques mois après le début du mouvement de contestation en Syrie, la Turquie de M. Erdogan, considérant qu'elle n'était plus en situation d'influer M. Bachar el-Assad, a décidé de changer de pied. Parce que dans les années antérieures, avant le début de la crise de 2011, il y avait eu un rapprochement spectaculaire entre la Turquie et la Syrie, et entre Bachar el-Assad et Recep Tayyip Erdogan. À partir de l'été 2011, changement de pied complet, c'est une obsession chez M. Erdogan depuis lors, il n'a pas changé, tout faire pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Y compris en ayant des formes de complaisance, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des groupes djihadistes, notamment l'État islamique à un moment. Ce n'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs, depuis le début de l'année 2015. Mais le choix aujourd'hui de M. Erdogan, c'est de soutenir une autre composante des djihadistes, la fameuse armée de la conquête, très influente dans le nord-ouest de la Syrie, qui est composée de salafistes et de la branche locale de Al-Qaïda, le front al-Nosra. En ce sens, il n'y a pas d'ambiguïté. Tous les moyens sont bons, semble penser M. Erdogan, pour tenter de faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Sauf que cette politique est un fiasco. Quelle que soit l'appréciation qu'on puisse avoir vis-à-vis du dictateur Bachar el-Assad, il est encore en place. Il est évidemment très très affaibli, mais il reste là. Parce qu'au point de départ, les autorités turques et beaucoup d'autres, la France ne fait pas exception, ont une très mauvaise appréciation des rapports de force qui existaient en Syrie. N'ont pas compris la nature du régime syrien, qui n'est pas réductible au régime de Ben Ali en Tunisie ou du régime de Moubarak en Égypte. C'est un autre type de rapport avec la population pour une multiplicité de raisons. Le résultat, c'est que Bachar el-Assad est toujours présent. Et donc c'est un fiasco total, c'est un échec complet. Et alors au moment où la plupart des grandes puissances considère désormais qu'il faut faire avec Bachar el-Assad, au moins dans une première phase de négociation, eh bien M. Erdogan, ainsi que son Premier ministre, M. Davutoğlu, ne cessent de répéter qu'il faut en finir immédiatement avec Bachar et l'Assad et que c'est un préalable à tout mouvement de négociation. Je considère pour ma part que la question de Bachar el-Assad sera le point final à ce qu'on peut souhaiter comme un processus de résolution politique de cette crise terrible en Syrie. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, je crois. Il y a un choix qui a été fait. Alors l'ambiguïté après, c'est la lutte contre l'État islamique.
Voilà, il y a quand même une ambiguïté, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN, que des pays de l'OTAN bombardent Daesh, ce qui n'était pas jusqu'à au début de quelques mois.
Dans la toute dernière période. C'est-à-dire, depuis un an, il y a des bombardements. C'est même pas de l'OTAN, c'est d'une coalition sous égide américaine qui, au passage, n'a aucun mandat international. Il n'y a pas de mandat de l'ONU. Donc, on peut critiquer, évidemment, les positions turques, bien sûr. Mais comprenons qu'elle est dans un environnement où la dite communauté internationale n'a quand même pas brillé par son sens de la propos sur la gestion de la crise syrienne. Et que, pour leur part, les autorités politiques françaises, par exemple sur ce dossier, n'ont pas des positions très différentes. Alors certes, la France prend sa part dans les bombardements depuis un an, un peu plus d'un an maintenant sur l'Irak et maintenant la Syrie. Certes, c'est une différence, mais chacun comprend les hésitations, le pas de deux des autorités françaises, des États-Unis, Madame Merkel, qui n'est pas du tout sur la même position que la France. Donc tout cela, évidemment, est infiniment compliqué. La Turquie, c'est la grande différence, c'est qu'elle a une frontière de plus de 900 kilomètres avec la Syrie. Alors, c'est un facteur de déstabilisation supplémentaire. Avec la question des réfugiés, nous l'avons abordé. Mais ne pensons pas, tout du moins de mon point de vue, qu'il y a une ambiguïté, il y a une politique assumée que je juge erronée, mais une politique assumée par les autorités turques.
Ahmet İnsel, est-ce que l'attentat du 10 octobre dernier, donc le très meurtrier, plus de 100 morts, a changé les choses dans la vision de Recep Tayyip Erdogan à l'égard de Daesh, puisqu'il semblerait que cet attentat ait été commis par, je mets tout ça au conditionnel, par des membres de l'organisation de l'État islamique?
Initialement, juste après l'attentat, président Erdogan et le Premier ministre Davutoğlu, ils ont essayé de tirer de cet attentat des bénéfices politiques immédiats électoraux en faisant l'amalgame entre le Daesh et le PKK. Ils ont quasiment dit mot à mot que cet attentat était une combinaison d'actions du PKK et du Daesh. Donc du coup, ils ont essayé toujours, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, ils ont essayé de criminaliser encore vis-à-vis de la population le mouvement kurde afin de faire perdre la crédibilité électorale. Et ils ont maintenu cette position jusqu'à très tardivement, jusqu'à il y a quelques jours encore, Tayyip Erdogan a dit oui, derrière cet attentat, il y a le Daesh, mais aussi il y a le PKK, mais aussi il y a les Mouhabarat. Et donc du coup, il veut créer une sorte d'écran de fumée autour de cet attentat afin de pouvoir l'utiliser dans la politique intérieure à son profit. Mais il y a deux jours, le procureur de la République a ouvertement annoncé que selon les informations dont il dispose, cet attentat est directement commandé par le Daesh, mais non revendiqué, il faut reconnaître, mais je pense que cet attentat est aussi lié à un règlement de compte de la branche turque de Daesh, parce qu'il faut maintenant reconnaître qu'il y a une branche turque de Daesh, avec des ressortissants turcs qui sont très nombreux, aussi bien en Syrie qu'en Turquie. C'est un attentat de la branche turque de Daesh qui est en règlement de compte avec les Kurdes, aussi bien les Kurdes dans la Turquie et les Kurdes en Syrie, puisque, comme vous savez, pour le Daesh, un des facteurs de son recul, c'était la résistance des Kurdes en Syrie.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, la Turquie est-elle en train de redevenir le malade de l'Europe? Nous sommes avec Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, avec Nilüfer Gölle, directrice d'études à l'EHESS, et avec Ahmet İnsel, qui vient de sortir La dernière Turquie d'Erdogan aux éditions La Découverte. On sent bien que Recep Tayyip Erdogan est un amateur du billard à multiples bandes. Hein. On a un peu de mal à suivre sa politique. Et je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur la personnalité du président turc. Ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir, soit en tant que premier ministre, soit en tant que président. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a considérablement évolué. Du chantre de l'islamo-conservateur, qui voulait être un peu le pendant du courant chrétien-démocrate en Europe de l'Ouest, il est devenu un quasi-sultan très autoritaire, qui a fait le vide autour de lui. Il concentre tous les pouvoirs, ou presque, la police, la justice, les médias, pas complètement l'armée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment s'effectue le changement? Alors, c'est évidemment le thème de votre livre, Tamer Tinsel, mais je voudrais qu'on entende Nilüfer Gülen sur le sujet.
Moi, je pense que le point tournant était le mouvement Gezi, mais ça a commencé avant.
2013.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce renversement? Parce que justement, il avait su mobiliser les aspirations démocratiques de la Turquie autour de l'adhésion, d'ailleurs, de la Turquie à l'Union européenne. Je pense que ça nous a donné une sorte de plateforme pour toutes les forces démocratiques de la Turquie, la société civile, les partis politiques, les entrepreneurs, donc le patronat de la Turquie, les mouvements kurdes. Je pense qu'il y avait un consensus autour de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne pour faire des réformes. Et lui, il a assumé ce mouvement. Il a pris, et il n'était pas le seul. D'ailleurs, on ne parle pas seulement de Erdogan, mais on parlait de l'équipe AKP avec Abdullah Gül. Donc, ils jouaient toujours dans un duo. Et ça, c'est déjà important. Donc, petit à petit...
Abdullah Gül a totalement disparu de la circulation.
Exactement. Donc, petit à petit...
Qui a longtemps été le président, quand Recep Tayyip Erdogan était le Premier ministre.
Exactement. Donc, il y avait quand même une sorte de cohabitation ou même d'un groupe des gens qui avaient porté ce mouvement, AKP, et qui avait rompu avec l'ancienne tradition du mouvement national islamiste, un peu tiers-mondiste. Donc, c'était la nouvelle génération qui était beaucoup plus libérale, pluraliste. Et je pense que l'adhésion à l'Union européenne a donné aussi un cadre pour qu'il y ait un consensus pour la démocratisation de la Turquie. Nous nous trouvions tous un peu sur le même bateau pour la démilitarisation de la Turquie, la reconnaissance du génocide arménien, la paix avec les Kurdes. Donc je peux multiplier. C'était pas déjà une ligne droite, bien évidemment.
Mais c'était d'une tendance forte.
Une tendance très forte. Et les intellectuels entre deux, donc les libéraux, démocrates, de gauche, etc., jouaient aussi un rôle important, donc des médiateurs que nous étions quelque part, nous avions aussi une voix. Donc petit à petit, tout le monde est éliminé, y compris nous, je pense. Il faut le voir. C'est pas simplement aujourd'hui, c'est la question kurde, mais avant, et en même temps, ça continue aussi avec le mouvement Gülen. Donc le mouvement Gülen, la confrérie.
Alors il faut en dire un petit mot, la confrérie de Fethullah Gülen, qui est devenue là encore l'ennemi juré de Recep Tayyip Erdogan.
Exactement. Et c'est,
alors qu'il était un allié.
Il était un allié, effectivement. Donc tous les alliés, y compris ses amis de mission, Abdullah Gül et les autres de son équipe, aujourd'hui, sont en train de devenir son ennemi. Il y a donc déjà ce processus de renversement d'ami en ennemi. Ça, c'est assez inquiétant. Et mais en même temps, effectivement, il a confisqué le mouvement. Il est devenu, il s'est identifié avec le mouvement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on focalise aussi un peu, à mes yeux, trop sur lui. Mais parce qu'il a confisqué le sens du mouvement. Il dit ou bien c'est moi, ou bien c'est le chaos, comme disait Ahmed. Mais maintenant, le mouvement a changé de sens. Est-ce que c'est AKP? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est vraiment un mouvement conservateur islamique? Non. Je pense que même le thème de l'islam, c'est pas important. C'est accessoire. Aujourd'hui, on voit la mainmise d'un homme sur le pouvoir.
À Metinsel, il y a un mot qui revient assez souvent quand on parle, et on l'emploie pendant cette émission, c'est le mot obsession. Les obsessions de Recep Tayyip Erdogan. Alors, l'obsession kurde, l'obsession de Bachar el-Assad, l'obsession que vient d'évoquer à l'instant Nilüfer Gülen de Fethullah Gülen. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, si on peut le savoir, pour que cet homme qui incarnait une forme de modernité, certes islamo-conservatrice, mais tout de même une modernité, est devenu cet homme qu'on présente maintenant comme qui voudrait être un sultan, le nouveau sultan de la Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que ce qui est important dans cette évolution, c'est qu'il est resté trop longtemps au pouvoir. Et donc, du coup, je crois que toutes ces obsessions sont aussi des obsessions de perte de pouvoir. Il a été à la tête du mouvement de modernisation modérée de la Turquie, et après, il a voulu devenir président de la République, mais le président de la République en Turquie n'a pas tellement de pouvoir. Il veut continuer à être l'homme fort, l'unique personne, le pouvoir central, un peu à la manière de Poutine. C'est-à-dire ce vertical de pouvoir de Poutine, on le retrouve dans son ambition à Tayyip Erdogan. D'ailleurs, on utilise de plus en plus le terme « poutinisation du régime » en Turquie. Et il est resté trop longtemps au pouvoir. Et malheureusement, il y a aussi un autoritarisme par le bas de la Turquie, de la société, d'une partie de la société. Une partie de la société bouge, c'est le mouvement Gezi, l'urbanisation, mais une autre partie de la société est très crispée. Il a peur de perdre les acquis d'une libéralisation de la visibilité de l'islam sur le terrain politique. Ils ont peur qu'un musulman très pratiquant qui utilise beaucoup les référents religieux soit renversé du pouvoir, etc. Et autour de lui, il y a un clic d'intérêt et ils ont énormément peur et de perdre le pouvoir et de perdre le statut, les avantages liés au pouvoir. In fine, une dernière chose aussi, c'est qu'il y a eu des accusations de corruption avec des preuves relativement fortes. Et Tayyip Erdogan a étouffé les accusations de corruption en créant un état d'exception. D'ailleurs, aujourd'hui, il règne en Turquie un état d'exception non officiel, pas officiellement déclaré, mais de fait, nous vivons dans un état d'exception et Tayyip Erdogan a aussi peur, et là je pense qu'il a raison d'avoir peur quelque part, a aussi peur que si jamais il perd le pouvoir, on lui tombe à bras dessus en lui demandant des comptes. Donc du coup il est resté un peu prisonnier de son sentier, et les affaires de corruption ne sont pas des minces accusations liées à son proche entourage, voire lui-même. Alors dans ce cas-là, je dirais, il est rentré dans un cercle vicieux, lui-même il est prisonnier de son rôle et de son obsession. Vous savez, les gens, on dit paranoïa, mais souvent les gens qui disent un paranoïa, justement, qu'ils ont, à part du moment où on leur prononce le mot paranoïa, ça leur déclenche le paranoïa. Tayyip Erdogan a peur, mais je crois que désormais, il n'a pas tort d'avoir peur, quelque part, de perdre le pouvoir.
On peut rappeler que le classement de RSF, Reporters sans frontières, place la Turquie au 149e rang pour la liberté d'expression sur 180 pays qui sont mesurés par RSF, ce qui donne évidemment une idée de la situation de la liberté de la presse et de l'état d'exception qui règne en Turquie. Dilibien, on arrive au terme de cette émission. Est-ce que Recep Tayyip Erdogan a une vision du monde? Comment il voit la Turquie dans le monde? La Turquie, évidemment, étant à mi-chemin, d'un côté l'Europe, de l'autre côté l'Orient. La Turquie est un pays musulman, mais il y a une modernité dans ce pays. Il y a 13 ans, quand Recep Tayyip Erdogan arrive au pouvoir, il a certainement une vision du monde. Comment se situe la Turquie dans le monde? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Recep Tayyip Erdogan a cette vision du monde, ou au contraire, il gère à court terme, au jour le jour, une situation de plus en plus catastrophique et chaotique?
Je crains malheureusement que son champ de vision se soit considérablement restreint au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Erdogan maintenant gère la politique extérieure d'un grand pays comme la Turquie, exactement comme la politique intérieure. Et ça ne peut pas fonctionner. Quand on veut projeter son pays à l'extérieur et qu'on a les atouts pour le faire, car quand même il y a un immense gâchis, il y a des atouts économiques, il y a des atouts humains, il y a des atouts géographiques pour que la Turquie ait pu se positionner comme un état charnière à la lisière, on le dit, à la confluence d'espaces géopolitiques différents.
Il y a encore quelques années, la Turquie c'était un pays modèle pour toute la région.
Pour ma part, je n'ai jamais utilisé le terme de modèle parce que
En tout cas, on le regardait avec bienveillance.
Et dans les relations internationales, le concept de modèle me paraît très critiquable, et puis on ne peut jamais faire de copier-coller. En tout cas, il y avait des atouts, incontestablement. Il y avait une influence que pouvait exercer la Turquie. Tout cela a été gâché. Oh, je crois que la Turquie a du potentiel, qu'elle rebondira. Il faut toujours distancier ce qui relève d'une période historique de la conjoncture politique. La conjoncture, elle est mauvaise. Elle est mauvaise et Erdogan s'est enferré dans un certain nombre d'impasses autant au niveau de la politique intérieure que de la politique extérieure, nous l'avons brièvement évoqué, et que de ce point de vue, il n'a pas une vision d'ensemble. Alors, il peut nous répéter qu'il veut que son pays devienne le 10e à la 10e économie du monde à l'horizon de 2023. Ce sera le centenaire de la République. Je crains fort que s'il reste au pouvoir, ce ne soit pas le cas. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que ces élections, aujourd'hui, permettent d'instaurer de nouveaux rapports de force, que le HDP et les autres partis d'opposition dont nous n'avons pas parlé, le Parti républicain du peuple par exemple, puissent prendre toute sa place ou leur place.
C'est-à-dire l'ancien parti kémaliste.
Voilà, pas ancien, il est toujours un parti qui se réclame de Moustapha Kemal. Voilà. Et comme l'évoquait tout à l'heure Nili Fergueulé, le grand enjeu des jours à venir, c'est oui ou non, sera-t-il possible de créer un gouvernement de coalition ? Ce qui aura un double avantage, c'est d'une part d'écarter la KP du pouvoir, et deuxièmement, tenter d'instiller des formes de compromis politiques, ce qui n'est quand même pas l'habitude la plus courante dans la vie politique de ce pays.
Alors, réponse à cette question que vous posez, des millions, dans quelques instants, puisque dans quelques instants, on aura une première estimation du résultat de ces élections en Turquie. Merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Ahmet İnsel, je rappelle le titre de votre livre, La Nouvelle Turquie d'Erdogan, aux éditions La Découverte. Et puis, également, pour comprendre la Turquie d'aujourd'hui, l'hebdomadaire qui s'appelle Le 1 se consacre cette semaine à la Turquie sous le titre Turquie, le grand bazar, sans oublier bien sûr Courrier International qui a titré Turquie, la prochaine Syrie, avec tout de même un petit point d'interrogation. Carrefour de l'Europe, réalisé par Guillaume Munier. Pour réécouter cette émission, RFI.fr ou encore mieux les applis mobiles mais gratuites de RFI. Plus d'infos sur nos invités via la page Carrefour de l'Europe RFI, sans oublier évidemment les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Paris, à Istanbul, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.